Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour. Nul n'est besoin de rappeler l'importance des liens qui unirent les artistes tchèques, voire tchécoslovaques, et les artistes français dans l'entre-deux-guerres. Malgré les accords de Munich en 1938, où la France ne brilla guère par son courage à défendre son allié, de nombreux artistes trouvèrent refuge dans l'Hexagone. C'est à cette période de la Deuxième Guerre mondiale et aux artistes tchèques en France que s'est intéressée l'historienne d'art Anna Pravlova dans un très bel ouvrage intitulé « Rattrapé par la nuit, les artistes tchèques en France, 1938-1945 ». À côté de František Kupka, Adolf Hofmeister, Otakar Kubin, Josef Šíma, Alen Diviš, Anna Pravlova fait revivre des noms peut-être moins connus des arts plastiques tchèques. Elle s'est notamment intéressée à une jeune artiste juive, sourde muette, Edita Hiršová, qui signait ses œuvres surréalistes du pseudonyme Tita et qui connaîtra le destin tragique de millions d'autres juifs à Auschwitz. Anna Pravlova est l'invitée de cette émission culturelle. Anna Pravlova, vous êtes historienne de l'art, conservatrice à la Galerie Nationale et vous venez de publier un livre, un très beau livre qui s'intitule « Les artistes tchèques en France pendant la Seconde Guerre mondiale ». En gros, pourriez-vous nous présenter un peu ce livre ?
Alors ce livre s'intéresse aux artistes tchèques qui ont soit vécu en France depuis longtemps et ont été attrapés par la guerre en France ou à Paris. Et aux artistes qui ont dû fuir la Tchécoslovaquie occupée par les Allemands et qui se sont retrouvés à Paris, soit par hasard, soit parce que ils étaient francophiles déjà avant la guerre, ils avaient des contacts à Paris ou voilà. Donc tous ces artistes qui se retrouvent à Paris en 39, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour leur pays, etc. C'est de ça que ça parle.
Alors vous commencez évidemment par le choc des accords de Munich, puisque comme vous dites, la plupart ou une majorité d'entre eux étaient des artistes tchèques qui étaient en général francophiles. Je pense notamment à Jan Zarzavi, son histoire est particulière aussi, puisque lui décidera de ne jamais revenir en France.
Oui, ça c'est un cas vraiment extrême, parce que Jan Zarzavi était vraiment un grand francophile. Il avait acheté une maison en France dans l'entre-deux-guerres. Il allait très, très régulièrement à Paris, il exposait au salon parisien. Et pour lui, c'était vraiment une très forte déception, les accords du Munich. Et il décide effectivement de ne plus retourner en France. Mais il y est retourné quand même une fois, mais il écrit de là-bas qu'il... Malgré tout, il ne peut pas oublier les accords du Munich, etc. Donc c'est resté une blessure assez profonde. D'autre côté, d'autres artistes qui sont partis à Paris juste après les accords de Munich ont assez vite oublié, entre guillemets, mais se sont retrouvés justement entourés d'intellectuels français de gauche qui eux-mêmes étaient contre les accords du Munich et ont été soutenus par ces gens-là. Donc pour eux, c'était un peu plus facile de garder leur francophilie.
Pourquoi ces artistes s'installent-ils en France plutôt qu'aux États-Unis, puisque finalement la guerre, on peut dire, bon, ils ne le savaient pas sur le moment, mais la guerre finit par approcher et la France était menacée d'une certaine façon aussi.
Ben, ils auraient aimé tous s'installer aux États-Unis, mais ils ont mis beaucoup de temps à pouvoir quitter la France, justement. C'est-à-dire jusqu'à la déclaration de la guerre, ils se sentaient sans doute en sécurité en France. Mais après, ils essayaient tous à fuir la France. Quand l'armée allemande approchait, ils ont descendu dans la zone libre, à Marseille, etc. Mais ils ont mis plusieurs années à obtenir les visas ou à trouver de la place sur un bateau qui pourrait les amener soit à Lisbonne et ensuite aux États-Unis, soit au Maroc et ensuite aux États-Unis, etc. C'était très très difficile.
Ceux qui restent en France, qui ne peuvent pas partir, que font-ils en France? Est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'ils arrivent un petit peu à vivoter par des petits boulots? Est-ce qu'ils créent?
Ceux qui restent, alors il y en a qui se sont engagés dans l'armée tchécoslovaque, par exemple, mais bien sûr, ceux-là ont ensuite, avec la, la capitulation de la France, l'armée était dissoute. Donc ceux-là, soit ils essayent de partir comme tout le monde, soit il y en a qui sont restés en France et se sont engagés dans la résistance et ont participé au groupe de la France libre, etc.
Vous avez des exemples, des noms ?
Oui, alors Zdeněk Přibyl, par exemple, qui a dessiné le drapeau de sa troupe dans la résistance. Jan Vlach, sculpteur, qui a fabriqué a priori les premiers tampons des FFI et d'autres groupes de résistance, etc. Donc, Chima aussi était dans la résistance. Il a fait fonctionner comme une sorte d'agent de liaison entre différents groupes dans le sud de la France, etc.
Dans ce milieu tchécoslovaque en France, quel est le rôle de František Kupka? On sait qu'il avait été très important pendant la Première Guerre mondiale, notamment parce qu'il a soutenu une Tchécoslovaquie libre et indépendante. Quel est son rôle pendant la guerre et par rapport à ses collègues artistes tchécoslovaques qui arrivent en France?
Son rôle par rapport aux artistes qui arrivaient en France était surtout celui de professeur entre guillemets de l'école des beaux-arts. Il exerçait ce rôle jusqu'à l'occupation allemande, donc il s'occupait des étudiants tchèques qui venaient à Paris. Il a dû arrêter cette fonction avec l'occupation et ensuite il a proposé ses services. Il voulait s'engager, mais il était trop âgé, mais il a proposé ses services à l'ambassadeur tchécoslovaque à Paris, Stefan Osuski, en disant « je suis disponible pour créer ou diriger une section de propagande, etc. » Il voulait mettre son talent au service de son pays comme il pouvait.
En France, quel est un peu le moyen qu'ont ces artistes de s'engager pour, disons, la défense de leur pays depuis l'extérieur? Est-ce qu'ils créent des journaux? Est-ce qu'ils créent des institutions de résistance écrites ou artistiques?
Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. La première, c'était Adolf Hofmeister, qui a été un petit peu initiateur et un peu le chef de file de la Maison de la Culture tchécoslovaque, qui a été créée à Paris pendant l'été 39 et qui devait servir justement d'un centre culturel de résistance, organiser différentes actions pour soutenir le pays, etc. Il a prévu de créer un journal, il voulait lancer une radio qui diffuserait vers la Bohème occupée, etc. Malheureusement, après le pacte germano-soviétique, tous les intellectuels ou les gens de gauche ont été suspects en France et tous les habitants de cette maison ont été arrêtés et emprisonnés pendant 6 mois à la prison de la santé. Et après, ils ont été mis dans des camps d'internement et ensuite, ils ont pu quitter la France. Donc, cette maison n'a duré que quelques mois. À côté de ça, il y avait un groupe d'artistes tchécoslovaques qui s'est créé à l'initiative du peintre Matoušek. Et ceux-là, ils ont créé aussi ils ont fait différentes expositions et publications pour soutenir la Tchécoslovaquie, dont un album de gravure auquel ont participé des grands artistes comme Chagall, Picasso, etc., et qui ont vraiment exprimé leur soutien à la Tchécoslovaquie occupée. Donc, et après, il y avait un groupe d'étudiants qui ont fondé une sorte de comité intellectuel tchécoslovaque aussi, qui voulait soutenir les intellectuels qui venaient de la Tchécoslovaquie occupée, qui étaient un peu perdus en France, mais eux aussi, ils ont été arrêtés et donc leur action a été empêchée par la police.
Est-ce que ces artistes en France ont l'occasion quand même de créer? Est-ce que vous avez un petit peu intégré dedans dans votre livre des œuvres qu'ils ont confectionnées, qu'elles soient d'ailleurs, j'allais dire, patriotiques ou pas?
Je me suis surtout intéressée à leur destin, mais bien sûr on ne peut pas le séparer de leur œuvre. Alors j'ai reproduit plusieurs tableaux d'Alain Givish qui n'ont pas été réalisés précisément en France, mais ont été faits après qu'il a quitté la France aux États-Unis et qui sont très fortement marqués par son séjour en prison en France. Et sinon, parmi les autres œuvres que j'ai reproduites, donc c'est les œuvres réalisées en France à cette époque. Il y a plusieurs tableaux Chima qu'il a réalisé quand il s'est réfugié dans le sud de la France et qui sont très marqués par l'époque. Il y a quelques dessins de Rudolf Kundera, notamment les dessins des soldats sénégalais qui a les croquis qu'il a dessiné pendant la libération de Marseille. Il y a un dessin de Zdeněk Přibyl qu'il a réalisé dans le camp de Gours, où il a été interné en tant qu'interbrigadiste, comme tous les autres interbrigadistes qui ont fui l'Espagne et qui en France se sont retrouvés dans des camps. Il y a une reproduction d'une toile de Kupka de 39, un tableau qui représente l'ambassadeur Osuski qui défend la légation tchécoslovaque et qui ne veut pas la livrer aux Allemands, qui la réclame en tant que maintenant... entre guillemets propriétaire du pays et donc de tout ce que lui appartenait. Voilà, c'est un peu l'éventail des images du livre.
Vous parliez de Alain Divich. C'est un tableau de Alain Divich qui se trouve en couverture de votre livre. Est-ce que vous pourriez un petit peu le décrire?
C'est un tableau qu'Alain Divich a réalisé suite à son séjour à Paris. Il s'appelle « Sous les toits de Paris ». Et c'est un peu une vision de Paris pendant la guerre... C'est un tableau qui se trouve à la Galerie Nationale et qui me paraissait être vraiment emblématique un peu de cette période des artistes tchèques en France.
La guerre s'achève, hein. Que se passe-t-il? Est-ce que ces artistes tchèques qui sont réfugiés en France restent en France, retournent au pays pour le reconstruire?
Alors la majorité quand même reste en France, mais ont eu des fonctions importantes à Paris. Par exemple, Józef Szyma a été nommé une sorte d'attaché culturel et il a organisé plusieurs expositions d'artistes tchèques à Paris juste après la guerre. Adolf Hofmeister est nommé l'ambassadeur de la Tchécoslovaquie à Paris juste après la guerre. Donc ces artistes ont été impliqués assez vite dans la vie politique tchèque, même si très vite ils l'ont aussi quitté après aux événements, au putsch communiste, etc. Mais donc ils ont été très actifs pour continuer les relations franco-tchèques après la guerre. Ils ont été partie prenante.
Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés en Tchécoslovaquie et qui auraient eu des problèmes à cause de leur séjour en France après le putsch communiste?
Alors par exemple, Zdeněk Přibyl et Imre Weinerkrát, qui est un peintre slovaque, ils auraient aimé rester en France, mais ils ont dû la quitter suite à une expulsion, maintenant je ne veux pas me tromper, mais suite à une expulsion d'ambassadeurs français de la Tchécoslovaquie. Il y a un groupe d'artistes ou d'intellectuels tchèques présents à Paris qui ont été expulsés de France, dont ces deux artistes. Et donc, ils ont dû retourner ici. Et je pense que leur vie n'a pas été facile parce que, comme tout le monde qui a eu des contacts en Occident, ils ont été suspects et mis un peu à l'écart.
Merci, Anna Plavlova.
De rien.